Voilà. C'est bon, je vous mets en place. Allez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse.
Et du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous propose le petit exercice que j'étais censé mettre en place et qu'on pratique assez peu, qui est que s'il y a des questions pour la séance précédente, eh bien c'est le temps de les poser. Les questions pour les textes d'aujourd'hui, on les posera plutôt à la fin. Voilà. Est-ce que sur le chapitre 2, ou même le chapitre 1 de l'Exode, sur la première rencontre, est-ce qu'il y avait des questions ou pas? S'il n'y a pas, il n'y a pas, mais c'est formidable. Eh bien, écoutez, comme ça, on avance. Voilà, donc pas de regret hein, pour le... Voilà. Donc, je vous rappelle le principe, c'est que à la fin, si je ne suis pas trop long, vous aurez le temps de poser des questions. Mais l'idée aussi, c'est que vous puissiez les poser en début de séance suivante, parce que c'est quelquefois en relisant ces notes qu'on voit émerger les questions. Voilà. Alors, nous poursuivons notre lecture de l'Exode. Hein. C'est vraiment une lecture suivie en regardant le chapitre 3, alors plus précisément 2, 23 jusqu'à 4, 17, hein, le fameux chapitre 3 avec l'épisode du buisson ardent. Je vous rappelle que les deux premiers chapitres étaient des chapitres introductifs qui nous présentaient la situation d'Israël en Égypte, hein, dans un cadre assez dramatique, et le surgissement de la figure de Moïse qui essaye de trouver sa place entre les Égyptiens et les Hébreux, les Israélites, et nous souvenons comment, en essayant de se positionner en faveur de ses frères israélites, eh bien, ça a tourné au vinaigre et on y a voulu le tuer. Et donc, l'Égypte est devenue pour lui un pays hostile, comme c'est le cas pour les Israélites. Seulement, lui ne s'est pas laissé enfermer dans l'esclavage. Il est...
Oui. Je suis désolée de l'interrompre, mais moi, ça me gêne qu'il y ait un portable, je ne sais pas s'il enregistre ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas à quel titre c'est.
Si, c'est pour enregistrer, c'est des enregistrements.
C'est pour vous. Non, mais je veux juste savoir, c'est la première fois que je suis là.
Ah, d'accord. Oh, c'est comme ça depuis, ça fait 10 ans que je fais le cours, et il y a des enregistrements comme ça, et ensuite on retrouve sur Internet ou Facebook ou des choses comme ça. Voilà. Parce que sinon...
Je voudrais vous dire pourquoi...
D'accord. Bon. Mais écoutez, en tout cas, ça n'a jamais posé de difficultés. D'accord, vous me direz. Donc voilà, un pays hostile, et donc Moïse s'enfuit au désert, et c'est là que le Seigneur va venir à sa rencontre pour l'envoyer en mission. Donc les chapitres 3 et 4 sont consacrés à la mission de Moïse. Notre plan est tout simple. Tout d'abord, Moïse à l'Horeb, donc je verrai l'ensemble du récit. Et la deuxième partie, ce sera, je m'arrêterai sur la question très particulière du buisson ardent et la révélation du nom, parce que c'est un passage qui est très important, qui a joué une grande importance dans la tradition de l'Église, le moment où Dieu révèle son nom. Donc je m'arrêterai un peu plus longuement dessus. Un peu longuement, pas plus longuement, mais un peu longuement dessus. Donc, nous prenons le texte à partir du chapitre 2, verset 23, Moïse à l'Horeb. Il y a tout d'abord une introduction. On voit comment Moïse va organiser sa vie au désert. Et ensuite, l'épisode du buisson ardent. Alors, le récit commence avec beaucoup de force. Hein. Il faut goûter le texte, même si nous, nous lisons des traductions. Hein, alors peut-être que ça vous donnera le désir de d'apprendre l'hébreu, ce que je vous souhaite, parce qu'évidemment c'est encore plus fort. Tout à l'heure, je ferai quelques petites références au texte hébreu, mais déjà, enfin, le récit, même en français, hein, a une force dramatique absolument extraordinaire. L'Exode nous montre comment l'histoire d'Israël, et finalement toute l'histoire, est un drame. Hein, qui met en jeu divers partenaires et Dieu lui-même. Donc, comme un préambule, hein, cette section porte notre attention sur les Israélites, hein, qui sont esclaves, nous le savons, et ils font monter un cri vers Dieu. Hein. Alors, le caractère dramatique du récit, hein, est souligné par le contraste entre ceux qui crient du fond de leur servitude et Dieu, hein, qui est au ciel, puisque c'est vers lui que monte leur appel. Hein, du fond de leur servitude, ils crièrent, hein, et leur prière monta vers Dieu qui entendit leur appel. Et ça, c'est, j'allais dire, on a déjà dans la Bible, on a déjà dans ce récit, tout le cadre qui finalement est le cadre de la Bible, qui fait sans cesse se rencontrer le ciel et la terre, hein, le plus haut et le plus bas. Et on est au moment où le plus haut, va rejoindre le plus bas. Dieu entend la prière des Israélites et il va réagir. Il y a quatre verbes qui vont exprimer la réaction de Dieu. Dieu entendit leur gémissement. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu connut. Quatre verbes. Voilà. Quatre verbes qui veulent tous dire quelque chose et qu'on retrouvera au long du livre de l'Exode. Tout d'abord, Dieu entend le cri de détresse des Israélites. En hébreu, entendre, ça a un caractère actif. Pour nous, entendre, ça veut dire recevoir une information. On reçoit une information et on reste à distance. Et ça, si je le dis, c'est parce que c'est notre culture, parce qu'on est dans une culture rationaliste, où il y a l'esprit critique qui fait qu'on est toujours à distance. Voilà. Dans la Bible, il n'y a pas l'esprit critique, il y a d'abord l'expérience de vie. J'entends quelque chose et donc je vais réagir d'une manière ou d'une autre. Dieu entend, ça veut dire qu'il va intervenir. Il se souvient de son alliance, hein, c'est-à-dire la promesse faite à Abraham et à sa descendance. Et sa promesse n'est pas vaine. Là aussi, hein, les mots ne veulent pas rien dire dans la Bible. Les mots sont conséquents. Hein. Il se souvient de son alliance. Et il va montrer ce que ça veut dire que se souvient de son alliance. Hein. Quand vous êtes avec quelqu'un et que quelqu'un vous a joué un mauvais tour ou un bon tour, vous dites, ah, j'ai pas oublié. Donc, autrement dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà. Et ça, c'est un des thèmes les plus importants, hein, du livre de l'Exode et puis de toute la Bible, l'oubli ou la mémoire. Dieu, lui, se souvient. Dieu se souvient. Par excellence, Dieu est celui qui se souvient. Toute la difficulté pour le peuple, c'est qu'il est un peu oublieux. On va le voir en filigrane, entre les lignes, dans la suite de récits. Ensuite, on a de nouveau un terme qui est assez proche du verbe entendre, c'est le verbe voir. Dieu voit. Mais entendre, ça peut marquer une certaine distance. Voir, ça montre une proximité. On peut entendre une voix dans le lointain. En revanche, voir, ça veut dire qu'il y a déjà une proximité. Et comme pour le verbe entendre, voir, ça signifie que Dieu va agir. Et enfin, il connut. Alors, les exégètes se demandent pourquoi il n'y a pas d'objet, complément d'objet direct. Le texte s'arrête. Alors, une manière qui me semble assez juste d'expliquer cette rupture, enfin il connut, eh bien, c'est de dire que le complément d'objet, c'est toute l'histoire qui va suivre. Voilà. Dieu a entendu, en entendant les cris, il se souvient, oui, il y a cette alliance et je ne l'ai pas oubliée. Il voit de façon concrète, et donc il connaît, alors connaître dans la Bible, hein, connaître, ça veut dire c'est une relation vitale, hein, avec quelqu'un. D'ailleurs, qu'on retrouve dans, juste pour exprimer la relation conjugale, on va dire connaître. Voilà, donc il y a quelque chose de très fort dans ces quatre verbes, Dieu va s'engager. Voilà, rapide présentation de Moïse qui fait paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Il est pasteur dans la Bible. Vous avez remarqué que les grands chefs les chefs du peuple, comme Abraham, hein, Jacob, David, hein, ce sont des pasteurs. C'est pas un hasard si ce titre de pasteur va être donné à Jésus également. Alors, vous avez remarqué, le peuple d'Israël, c'est un peuple de pasteurs, et c'est vrai particulièrement des plus grands personnages comme Abraham, Jacob, David. Moïse conduit son troupeau jusqu'à l'Horeb. Évidemment, les pasteurs passent leur temps à se déplacer d'un lieu à l'autre pour trouver des bons pâturages. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Horeb? Vous savez que c'est la même chose que le Sinaï, tout le monde le sait. L'Horeb, c'est le nom deutéronomiste. Je vous avais présenté l'an passé, je fais un rappel pour ceux qui n'étaient pas là, une théorie qui est très ancienne, qui est un peu fragile, mais qui peut être utile, ce qu'on appelle la théorie documentaire, qui dit qu'il y a plusieurs sources qui ont été combinées pour nous donner les textes que nous avons aujourd'hui. C'est un peu comme de la couture entre plusieurs morceaux, une espèce de patchwork. L'image n'est pas très belle, mais c'est ça. Eh bien, il y a des passages de la source deutéronomiste, des passages de la source Yaviz, des passages de la source Eloïste. Voilà. Eh bien, le deutéronomiste parle de l'Horeb. La source Yaviste, alors aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de la source Yaviste, mais en gros, les textes qui ne sont pas deutéronomistes ou sacerdotaux parlent du Sinaï. Alors, le Sinaï, vous connaissez, c'est une péninsule entre l'Égypte et la terre de Canaan, et le mont Horeb, le mont Sinaï, est tout à fait au sud. Aujourd'hui, il y a une tradition avec le monastère Sainte-Catherine qui garde une chapelle avec le buisson ardent. Qu'est-ce qui était dans le sud du Sinaï? Voilà, au monastère, on était dans la même année, je crois me souvenir. Oui, c'est ça. C'était dans l'équipe avec...
Ça s'appelle Djebel Moussa, c'est ça?
Djebel Moussa, oui. Ah, c'est très, très marquant comme endroit. Voilà. Donc, et alors, quand on voit le lever du soleil le matin, on y était le matin, c'était extraordinaire, j'ai l'impression que les montagnes s'embrasent. On comprend quand on parle du feu dont il sera question tout à l'heure. Voilà. Alors, justement, le buisson ardent. Donc, là, vous avez le cadre. Israël qui est en Égypte, Dieu qui entend, qui se souvient, qui va intervenir, et Moïse qui amène son bétail au pied de la montagne de l'Horeb. Le buisson ardent. Alors, j'ai mis deux sous-parties. D'abord, l'approche. J'ai choisi le titre de l'approche, vous allez voir, il y a une question d'approche. Et ensuite, l'envoi en mission. Moïse est donc témoin de ce spectacle étonnant. Il voit un buisson en train de brûler sans se consumer. Alors, c'est évidemment, ça a de quoi surprendre. D'ailleurs, c'est ce que dit l'auteur, c'est une étrange vision. Et spontanément, le lecteur de la Bible sait que c'est une manifestation divine. Dans la Bible, vous avez remarqué que le feu renvoie presque toujours à Dieu. Quand il y a du feu, vous êtes à peu près sûr que c'est Dieu qui se cache derrière. Le feu est une manifestation divine. Pourquoi? Parce que, eh bien, le feu, on ne peut pas mettre la main dessus. Et on ne peut pas l'enfermer. Il dévore ce qu'il touche. Pour parler de la transcendance de Dieu, eh bien, on va prendre l'image du feu. La nouveauté, c'est que ici, le feu ne détruit pas le buisson. Le buisson brûlé et ne se consumait pas. Voilà. Ça montre de façon très, très fine et assez poétique que la présence de Dieu est perceptible, puisqu'il y a un feu, et en même temps, elle est insondable, puisque le feu semble échapper aux lois de la matière. La présence de Dieu est vivifiante, et en même temps, elle est incandescente, brûlante. Dieu porte la vie, et en même temps, si on y touche, eh bien, on se brûle. Voilà. Il y a cette espèce de contraste qui est très caractéristique de la Bible. La Bible n'est pas du tout dans des définitions. Je vais beaucoup insister dessus tout à l'heure. La Bible passe à travers beaucoup d'images qui jouent sur le paradoxe. Alors, cette présence, une petite parenthèse, la présence du feu dans le buisson qui ne détruit pas le buisson, ça a été lu par les pères de l'Église comme la venue de Dieu dans notre chair. Si Dieu est un feu consumant, quand le Verbe se fait chair dans le sein de la Vierge Marie, il devrait tout cramer autour de lui. Alors non seulement il ne brûle rien, mais au contraire, Marie est capable de l'accueillir. Donc ça montre que Marie est parfaitement adaptée à ce projet de Dieu, c'est l'Immaculée Conception. C'est une image qui est très belle. Vous avez une citation à la fin de Saint Grégoire de Nice. Ce passage, vous avez remarqué que souvent, en général, je mets des passages des pères de l'Église. C'est une invitation à aller regarder ce qu'ils disent. C'est les meilleurs commentateurs de la Bible, les pères de l'Église. Voilà. Ce passage nous enseigne également le mystère de la Vierge, la lumière de la divinité qui, à partir d'elle, a éclairé l'humanité, a laissé intact en naissant le buisson dont il émanait, et l'enfantement n'a pas flétri la fleur de la virginité. C'est assez extraordinaire. On retrouve la même chose, je crois, chez Origène. Voilà, chez les pères de l'Église, cette figure de la Vierge qui peut porter le feu, la lumière divine, sans pour autant être détruite. En s'approchant de Moïse, eh bien, le Seigneur permet à Moïse de s'approcher de lui. C'est une grande question dans toutes les religions antiques, et y compris dans la Bible. Comment l'homme peut-il s'approcher de Dieu? Eh bien, la Bible, la particularité de la Bible, on l'a vu déjà avec Abraham, c'est que c'est Dieu qui le premier s'approche. C'est lui qui vient à la rencontre de l'homme. Et puisque il vient à la rencontre de l'homme, eh bien l'homme peut s'approcher de lui en vérité. Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Moïse va s'approcher en faisant un détour. Alors ça, c'est très très intéressant, ça, que Moïse fasse un détour. Ça montre qu'on ne peut pas avoir de vision directe de Dieu. Que dans notre vie spirituelle, que dans notre vie, notre connaissance de Dieu, il y aura toujours un détour. Si j'arrive en allant direct au but, en disant « je sais ce que c'est, je connais les concepts, je sais ce qu'on peut dire de Dieu », ben vous êtes à peu près sûr que ce sera une idole, ce sera la projection de vos idées, de ce que vous savez. Dieu échappe toujours à notre saisie. Donc il y a toujours un détour, c'est-à-dire on passe par un langage qu'on ne connaissait pas forcément. Et on n'aura jamais de saisie totale sur Dieu. Cette idée du détour me semble très 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 importante pour comprendre comment Dieu se laisse approcher. Il n'y a pas d'équivalence. Dieu s'approche de l'homme, mais l'homme aura à apprendre à s'approcher de Dieu. Il y aura des étapes. Pour Moïse, il y aura des étapes. Moïse doit d'abord se tenir à la juste distance. N'approche pas d'ici, alors qu'il est en train de s'approcher. Et que Dieu souhaite qu'il s'approche, mais n'approche pas. C'est-à-dire, approche-toi, mais pas trop. Reste à la juste place. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Voilà, la fameuse terre sainte. C'est là que l'expression apparaît. Ce lieu est une terre sainte. Et donc, Moïse va retirer ses sandales. C'est un geste religieux d'adoration. Et il reste comme ça dans la présence du Seigneur. Et il n'est pas dit à ce moment-là qu'en voyant le feu, il n'est pas dit que Moïse voit le Seigneur. Là aussi, c'est un point qui est très important dans la Bible. Moïse ne voit pas le Seigneur. On ne voit pas le Seigneur. En revanche, il est dit que le Seigneur voit Moïse qui s'approche de lui. Et le verbe voir revient assez souvent. Alors dans mes notes, j'avais mis on voit X fois le verbe voir. Voilà, donc je ne l'ai pas rapporté là, vous ferez le calcul. On voit beaucoup, il y a beaucoup de verbes voir, mais vous vous rendrez compte que c'est Dieu qui voit Moïse. Dans la Bible, dans la tradition hébraïque, et les Juifs ont gardé cette idée, on ne dira jamais que l'homme voit Dieu, ou dit ben, par exemple Dieu voit l'homme. C'est une manière de dire j'entre dans la vision de Dieu. Mais c'est toujours Dieu qui a la primeur, qui est le premier, qui reste le sujet. Oui. Je ne peux pas dire « je vois Dieu », c'est « je suis vu de lui ». Ça joue dans le livre de la Genèse. Quand Agar est au désert, le lieu où Dieu voit. De même au Mont Moria, Moïse au Mont Moria, le lieu où Dieu voit. On est dans la présence de Dieu, mais c'est lui le premier qui voit. Dieu ne se laisse pas regarder. Moïse voit seulement un étrange spectacle. Mais il ne voit pas Dieu. L'homme ne peut pas voir Dieu. Vous connaissez ce passage. En haut de l'Horeb, d'ailleurs, au même endroit, Moïse montra « Montre-moi ta gloire ». Et le Seigneur dit « Je mettrai ma paume sur ton visage parce que l'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir ». Il y a une disproportion trop grande entre Dieu et l'homme. D'ailleurs, juste après que Dieu ait parlé, Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. C'est ce qui se passera également au chapitre 33, hein, dans la vision de la gloire divine. Hein, il aura ce voile, hein, parce qu'il devient lui-même comme incandescent. Les Israélites ne peuvent pas supporter cette lumière qui commence à gagner Moïse. Dieu est insaisissable, c'est toujours lui qui prend l'initiative de se révéler tel qu'il est. Là, le point que je vous dis, ce que je vous dis là, c'est fondamental pour notre foi chrétienne, notre foi juive et chrétienne, hein, parce que c'est du judaïsme que nous avons appris que Dieu est absolument au-delà de nos représentations. Hein, on aura peut-être l'occasion d'en reparler à propos du décalogue, mais Dieu vient, dans la Bible, vient détruire toutes les constructions, les images, les concepts que nous nous faisons de Dieu, hein, parce que ce ne sont que des projections humaines. C'est Dieu qui prend l'initiative d'aller à l'homme d'une manière tellement étonnante. Voilà. Ça ouvre la voie d'abord à la révélation de Dieu tel que nous le connaissons, et puis à la révélation de la Trinité, hein, qui nous montre à quel point Dieu dépasse ce que nous pouvons dire de l'unité de Dieu. Il ne s'agit pas de dire on tombe dans l'absurde, mais il s'agit de dire qu'il y a une intelligibilité plus profonde, une richesse beaucoup plus grande, dans laquelle l'homme doit faire un détour, l'homme doit se déplacer par rapport à ses idées toutes faites. Dans la Bible, dans le judaïsme et le christianisme, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative de se révéler à l'homme tel qu'il est. Alors, l'envoi en mission. Un dialogue devient possible puisqu'il y a cette rencontre. Dieu s'est approché, Moïse s'approche, il se tient à la juste place. Désormais, il peut y avoir ce dialogue dans lequel Dieu va dire à Moïse ce qu'il compte faire. Voilà, les premiers mots de Dieu qui s'adressent à Moïse. Voilà. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Alors, comme je vous l'ai dit, voir la misère de quelqu'un, ça veut dire agir en conséquence de ce que l'on a vu. Prendre en considération une situation. Voir, ça suppose une immédiateté. Donc, Dieu a vu. Dieu va agir en conséquence. Ce qui est assez marquant, c'est que ce verbe voir, qui est très fort, qui parle d'une... d'une ouverture du cœur, si on peut dire. Dieu ouvre son cœur et il va prendre en compte la misère qu'il voit. Eh bien, ceci est renforcé par l'hébreu qui dit « voyant, j'ai vu ». C'est la traduction qu'on pourrait avoir, mais en hébreu, c'est encore plus fort. S'il y a des hébraïsants parmi vous, Dieu dit « rao raiti ». Rao, c'est un participe, alors ce n'est pas vraiment de passé et de présent en hébreu, c'est un participe. Voyant, c'est-à-dire véritablement j'ai vu avec intensité, voilà, on pourrait dire comme ça, j'ai vu avec beaucoup d'intensité. Vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Vous voyez, c'est pas uniquement, ah oui, j'ai vu. Bon, ok, on va essayer de faire quelque chose. Véritablement, j'ai vu. Ça veut dire que au départ de l'action de Dieu, qui va courir à travers tout le livre de l'Exode, il y a ce regard, il y a cette miséricorde. Le regard qui se laisse ébranler, qui se laisse toucher, on le retrouvera chez les prophètes, on le retrouvera avec Jésus dans l'Évangile, quand il voit le fils de la veuve de Naïm, quand il voit la Jésus, quand il voit la parabole du bon samaritain, il y a toujours cette vision dans laquelle les entrailles sont bouleversées, et après, on voit toujours le Seigneur Jésus s'approche. Et là, il guérit, il touche. La vision, les entrailles de miséricorde qui sont touchées, qui sont atteintes, il s'approche et il agit. C'est vraiment le premier moment dans la Bible où on a cette intensité de Dieu qui parle de cette vision qui va le conduire à agir. C'est la miséricorde qui est au départ de l'action du Seigneur. Le regard du Seigneur aboutit à l'action, comme je vous l'ai dit, mais cette action va requérir un agent humain. Dieu n'intervient pas de façon extérieure. Et c'est pour cela qu'il va envoyer Moïse en mission. Maintenant, je t'envoie, maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, fait sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Alors on retrouve dans ce récit, si vous êtes familier de la Bible, hein, on retrouve les récits de vocation. Hein. Il y a une théophanie, donc Dieu apparaît, il donne une mission, il y a des objections, et ensuite il y a un assentiment. Des objections, Moïse en a une quantité. Parce que d'après le récit, le Seigneur lui dit « Maintenant, va !» Moïse connaît l'Égypte, il en vient, donc le Seigneur lui dit « Maintenant, va, je t'envoie !» Et au lieu de partir, eh bien, il va rester avec ses objections. Et ça, c'est, on le voit, vous l'avez par exemple avec Gédéon ou avec Jérémie, on sent que la mission va être difficile, et donc celui que Dieu envoie résiste comme il le peut, avec ses moyens. Il va y avoir 4 objections qui vont être surmontées avec des signes et le dialogue avec Dieu. Ce qui veut dire que Moïse va déjà faire l'expérience, et finalement c'est tout l'objet du cours de ce soir, c'est de voir comment Moïse va faire l'expérience qui sera celle du peuple plus tard. Moïse passe par les étapes par lesquelles passera le peuple. Je l'avais déjà dit à propos de quand Moïse était dans le panier, dans le fleuve, il a été tiré des eaux, Moshé, tiré des eaux. C'est la préfiguration du peuple d'Israël qui sera tiré des eaux, de l'esclavage, en passant par la mer Rouge. Voilà. Tout ce que Moïse vit, cette espèce de confrontation avec le Seigneur, eh bien on l'aura de nouveau avec le peuple. Ce dialogue qui s'instaure. Et ce qui est très beau, c'est de voir que le Seigneur accepte de jouer ce dialogue, comme il a fait avec Abraham, vous vous souvenez, la négociation. S'il y a 40 justes, 30 justes, il y a de la négociation. Et le Seigneur accepte de jouer le jeu, parce qu'il fait de nous les partenaires de son alliance. Et Moïse est véritablement un médiateur. J'emploie le terme comme ça, mais je crois qu'il est juste. Moïse est un médiateur et Dieu compte sur lui. Il ne veut pas que ce soit un médiateur passif. Quand le Seigneur appelle quelqu'un pour être à son service, il ne prend pas des gens passifs. Alors, première objection. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? La tâche est immense et Moïse n'a pas beaucoup de poids. La dernière fois, vous vous souvenez, les Israélites ont dit « On va t'écrabouiller parce que tu as joué l'Égyptien. » Donc Moïse, tu as tué l'Égyptien. Donc Moïse a plutôt peur. Donc il ne pèse pas très lourd. Alors Dieu répond, commence en disant « Je serai avec toi. » « Je serai avec toi. » Et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Alors là, ça devient plus étonnant. Vous avez peut-être remarqué en lisant ce récit. Voilà le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé, puisque s'ils n'acceptent pas Moïse, il faut bien un signe. Et quel est le signe? Alors on a l'impression que le Seigneur dit, quand tu feras sortir d'Égypte mon peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire que le signe qui confirme que Moïse est envoyé, c'est le but, c'est l'objectif. Normalement, un signe précède l'objectif. On donne un signe maintenant pour dire c'est bien moi qui t'ai envoyé. Et comme ça, tu vas pouvoir mener à bien l'action. Voilà. Alors, c'est vrai que la rédaction du texte donne l'impression que ce signe, c'est quand Moïse aura terminé son action. Alors là, il y a une question de type littéraire sur laquelle je ne vais pas m'arrêter, qui est un peu compliquée, dans laquelle, en réalité, on peut penser que le signe, c'est davantage le buisson ardent lui-même. Un signe qui sera garanti quand les Israélites seront sur cette montagne pour rendre culte à Dieu, avec l'idée que le signe porte déjà quelque chose de ce qu'il annonce. Il est de même nature. Le buisson ardent au Sinaï, le feu au Sinaï qui manifeste la présence de Dieu, eh bien les Israélites retourneront au Sinaï et il y aura un feu beaucoup plus important qui manifestera la présence de Dieu. Voilà. Le signe, en réalité, c'est le texte hébreu dit « Voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. » Point. « Quand tu feras sortir mon peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Alors, le Seigneur a quand même bien répondu à Moïse en lui donnant ce signe, qui est d'abord le fait qu'il sera auprès de lui, et il y aura beaucoup de signes par la suite, nous le verrons la prochaine fois. hein, les fameuses plaies d'Égypte. Mais Moïse ne se tient pas pour vaincu dans ce débat, ce dialogue où il essaye de se dérober, vient une deuxième objection. J'irai trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me disent, quel est son nom? Très bien, tu dis que tu es envoyé par Dieu, que tu es envoyé, mais celui qui t'envoie, est-ce que tu es bien sûr qu'il existe, qu'il a de l'autorité? Voilà, quel est le nom de celui qui t'envoie? Quand Bernadette à Lourdes a raconté ses visions, le curé était persuadé qu'il arriverait à la faire taire en disant « Demande à la dame quel est son nom ». Puis, un manque de chance, Bernadette est arrivée, elle avait la réponse. Le curé a fait comme ça. Hein, il lui a dit de sortir et à ce moment-là, il s'est mis à genoux, il s'est en larmes et il a dit c'est éblouissant. Enfin, c'était, voilà. Et c'est ce qui va se passer pour les Israélites. Voilà. Les Israélites, en attendant, ne croiront pas que c'est Dieu qui l'a envoyé. Hein, il faudra que celui qui envoie Moïse se révèle davantage. Hein, vous me direz, les Israélites, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple qui a été choisi par Dieu, donc Dieu, ils le connaissent. Mais souvenez-vous, les deux premiers chapitres, on voyait bien que Dieu, il l'avait largement oublié. Hein, cette question de la mémoire. Hein, ils n'ont plus la mémoire, ce sont des esclaves, ils sont rentrés dans leur esclavage. À tel point que quand Moïse a voulu les en sortir, ils ont préféré rester à se battre plutôt que de se souvenir qu'ils étaient fils d'Israël.
Et qu'est-ce qu'ils pratiquaient comme culte en Égypte alors?
On n'en parle pas. La Bible n'en parle pas. Alors on peut imaginer des choses. On peut imaginer des choses. Ils devaient pratiquer les cultes qu'il y a partout. Enfin, toujours est-il que la Bible laisse entendre qu'ils ont beaucoup de mal à... Enfin, ils sont oublieux. Hein, le thème de l'oubli et de la mémoire est un thème qui est très important. Hein, et que le Seigneur va reconstituer. Le Seigneur, lui, il se souvient. Alors, Moïse n'a pas oublié et le Seigneur lui dit qu'il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Pour les Israélites, ça ne veut plus rien dire. Le Dieu des pères, c'est un passé qu'ils ont oublié. Le Dieu des pères. Donc, il faut que Dieu en dise un peu plus. Et là, Dieu va donner son nom en réponse à cette objection, et je vais revenir dessus parce que c'est un point qui va être très important, mais Dieu va apporter une réponse substantielle en révélant qui il est. Il y aura une troisième objection. Dieu révèle son nom, mais ça ne suffit toujours pas à Moïse, qui émet une troisième objection. Ça devient un peu systématique. Ils ne me croiront pas, ils diront « Le Seigneur ne t'est pas apparu ». Alors là, Dieu va répondre par trois signes. Le thème des signes, là aussi, c'est un thème qui est important dans le livre de l'Exode, hein, qu'on retrouvera dans l'Évangile, hein, chez saint Jean notamment. Un signe, ça veut dire « Est-ce que je suis capable de reconnaître quelque chose par derrière ? Est-ce que je regarde juste la matérialité ou est-ce que j'essaye de comprendre le sens ?» Et bien là, il va y avoir des signes où Dieu va manifester sa puissance. Le bâton changé en serpent, la main qui devient lépreuse et l'eau changée en sang. Donc il y a déjà le début de ces signes que Dieu donne à Moïse. Moïse pourra compter sur le pouvoir divin. Voilà. Donc vous l'avez vu, première, deuxième, troisième objection. Dieu a montré à Moïse qu'il était présent. Deuxièmement, il lui révèle son nom. Troisièmement, il lui montre que sa présence est active et que Moïse pourra compter sur le pouvoir que Dieu va lui donner. Ça devrait suffire. Mais il a encore quelques ressources pour continuer d'essayer de se dérober. Voilà, vous savez, quand on veut vraiment pas quelque chose... En général, on a une imagination assez riche pour trouver tous les arguments, pour dialoguer. Enfin voilà, quand on ne peut vraiment pas. Le problème, c'est que devant Dieu, on essaye toujours de trouver des justifications. C'est ça qui est terrible, parce qu'on sait que Dieu nous connaît. Alors on essaye au fond de soi-même de se persuader que ça ne peut pas être autrement, que quand même j'ai le droit d'eux. Enfin, vous savez, cette espèce de dialogue qu'on a à l'intérieur de soi-même avec notre conscience. C'est terrible ça. Et là, Moïse, il dit, tiens, j'ai encore un truc. Voilà. Toi, Seigneur, t'es bon, t'as tout fait, tu me donnes tout ce dont j'ai besoin, tu me donnes même davantage. Mais sache que moi, je suis complètement pas du tout à la hauteur. Voilà. Je n'ai jamais été doué par la parole. J'ai la bouche lourde et la langue pesante. On peut traduire aussi. On peut traduire aussi. Voilà. Probablement, il bégaye. Hein. Et c'est le cas de Jérémie, si je ne me trompe pas. Voilà. Eh bien, Dieu va donner une aide à Moïse. C'est toujours Dieu qui finit par s'en tirer dans le livre de l'Exode. Hein. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Hein. On le verra avec Pharaon. Quand Pharaon veut faire le malin avec Moïse, avec Dieu, hein, c'est Dieu qui arrivera à avoir Pharaon sur la ligne d'arrivée. Voilà. Eh bien, le Seigneur va donner à Moïse Aaron, hein, son frère, qui lui tiendra lieu de bouche. L'expression est assez forte. Donc, l'objection de Moïse ne tient pas. Voilà. Donc, derrière ce dialogue, eh bien, il y a finalement quelque chose qui se met en place pour Moïse. C'est une sorte de familiarité, de prise de connaissance avec Dieu. Et il ne cessera pas d'aller à la rencontre de Dieu pour dialoguer avec lui, même quand il ne comprend pas. Et vous verrez dans la suite du récit qu'il y a des dialogues entre Moïse et Dieu qui sont d'une franchise, d'une vérité et d'une force assez stupéfiante. On a l'impression que Moïse s'en prend à Dieu comme dans une dispute entre deux vieux amis qui disent, et à un moment, c'est plus possible et ça devient violent, quoi. Hein, Moïse dit, je suis prêt à disparaître de la terre. Il dit à Dieu que ce que Dieu fait est impossible. Mais ça montre la grande famille, la grande proximité. Hein. Quand il y a cette parole aussi forte, aussi profonde, ça peut révéler, même si ça paraît violent, ça peut révéler une très grande proximité. Hein, vous connaissez l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila. Hein, tout le monde connaît l'histoire de Thérèse d'Avila qui faisait ses fondations pour le service de Dieu. C'est quand même une œuvre qu'elle faisait pour le service de l'Église et le service de Dieu. Elle était épuisée. Tout le monde lui mettait les bâtons dans les roues. Elle n'en pouvait plus. Elle en avait assez. Et son biographe lui raconte qu'un jour, elle était sur sa voiture à cheval. Il pleuvait. Elle était épuisée. La voiture à cheval se renverse dans la rivière, elle se retrouve les fesses dans l'eau pendant qu'on essaye de relever les chevaux et la carriole, et elle se tourne vers le ciel en disant « Seigneur, je vois comment tu traites tes amis, je comprends que tu en es si peu. » Voilà, hein, donc vous connaissiez la... Voilà. Et on peut dire que Moïse et Thérèse d'Avila est de la même famille que Moïse. Hein. Quand je vois comment tu traites tes amis, je comprends que tu en es si peu. Voilà. Mais au moins, ça montre qu'il y a de la vérité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à dire non, tu sais ce que tu fais, c'est très bien, franchement, je suis comme ça. Hein. C'est... Non, Moïse, il sera comme ça avec le Seigneur. Hein. Parce que il va faire sienne, il va faire sien le projet de Dieu. Il va faire sien le projet de Dieu. Et ça se joue dans ce dialogue. Hein. Où il objecte, il avance, le Seigneur le fait avancer, et il sait que le Seigneur sera avec lui. Il est vraiment partie prenante. Il est vraiment partie prenante. C'est un passage qui va être décisif pour la suite, parce que vous avez la mise en place de ce qu'on appelle le médiateur, hein, celui qui va agir au nom de Dieu, dans la force de Dieu. Alors, la révélation du nom. Voilà, je m'arrête sur quelques versets. Mais il me semble que la place que ces versets ont pris dans la tradition de l'Église, et puis, tout simplement, la question du nom de Dieu dans l'Ancien Testament, mérite que nous nous y arrêtions. Il y a derrière une théologie, évidemment. Dieu va révéler son nom en deux temps. Tout d'abord, le nom qui révèle la présence, qui signifie la présence, et ensuite le nom que l'on peut invoquer. Tout d'abord, le Seigneur répond à Moïse, disant, quel est ton nom ? Donc je vous rappelle que c'est la deuxième objection. Dieu va répondre en disant, je suis qui je suis. Je pense que tout le monde connaît cette parole qu'on cite dans le catéchisme partout. Alors, « Je suis qui je suis », c'est la traduction liturgique. Il existe en réalité deux types de lectures pour une phrase. Alors, ce n'est pas pour faire cuistre et en rajouter, mais c'est important de mettre l'hébreu « ayez, hacher, ayez ». Vous allez comprendre pourquoi je mets en hébreu. C'est qu'en réalité, la traduction est très difficile. très très difficile. Elle est nécessaire, elle est bon, les traductions qu'on a sont bonnes, mais elles sont toutes, d'une certaine manière, insuffisantes. La première tradition de lecture voit dans cette réponse donnée par Dieu l'affirmation que Dieu est l'être par excellence. Je pense que c'est la tradition que vous connaissez. Hein. Dieu affirme qu'il est l'être. Hein. Vous avez quelques souvenirs de philosophie. Hein. Dieu est celui qui est. Il est. Il n'est pas quelque chose, il n'est pas. Il est. Hein. Celui qui subsiste éternellement. Vous êtes d'accord? Plutôt ça? Voilà. C'est, en général, c'est ce qui nous, ce dans quoi nous avons été formés. C'est ce que nous avons appris. La Bible de Jérusalem. Alors, et d'abord la Septante, le grec, hein, ego eimi o on, hein, je suis l'étang. Alors, c'était assez philosophique, hein, je suis l'étang, je suis celui qui est. Et la Vulgate, qui peut-être nous ramène davantage à l'hébreu, hein, ego sum qui sum, je suis celui qui suis. Bien, je suis qui je suis. Et vous allez voir qu'il y a des glissements de sens qui ne sont pas sans importance. Une autre lecture, qui est en fait une lecture moderne, qu'on doit avoir aussi chez certains pères de l'Église, mais une autre lecture qui suit une traduction plus littérale renvoie non pas à la notion métaphysique, philosophique, d'être, hein, voilà, Dieu est l'être, hein, non, ce deuxième mode de lecture nous parle plutôt de la présence agissante de Dieu. Le nom de Dieu, c'est « je suis là » et j'agis. Hein. Il faut savoir qu'en hébreu, il n'y a pas le verbe « être ». Il n'y a pas le verbe « être ». Ça n'existe pas. Donc, quand on dit « je suis l'être » ou « je suis celui qui est », ça n'existe pas en hébreu. Parce que l'hébreu n'a pas de concepts abstraits. L'hébreu parle toujours d'une expérience historique, humaine, concrète. Il y a un verbe qui est très proche du verbe être, aya, hein, mais qui signifie pas être de façon abstraite, c'est être là. Hein. Voilà. Être là, intervenir. Je suis là. Un peu que. On retrouve le même état d'esprit que quand je disais tout à l'heure écouter, voir, hein, j'interviens. Être là. Il faut savoir aussi qu'en hébreu, il n'y a pas le temps présent. Il y a deux temps, ou plutôt on dit deux aspects, l'accompli et l'inaccompli. Ce qui a été fait, ce qui va se faire. Donc on est dans une vision dynamique. Et puis la petite particule asher, hein, ayez, asher, ayez, hein, ça correspond à notre pronom relatif, mais qui peut avoir plusieurs sens. Ce que, ce qui, celui qui, mais ça peut vouloir dire aussi que. Alors vous allez voir ce que ça veut dire dans notre traduction. Ce à quoi nous sommes plus sensibles aujourd'hui, c'est que Dieu ne cherche pas à définir son être. Je suis l'être par excellence. Ce n'est pas ça qu'il cherche. Ce qu'il veut, c'est affirmer sa présence active auprès de son peuple. Il demeure insaisissable et il est pourtant présent et il agit. On a vu ça avec le buisson ardent. Il est présent et il est insaisissable. Mais il est présent. Paul Beauchamp, un exégète dont je vous recommande la lecture, pas toujours facile à lire, mais absolument passionnant, qui est une lecture très fine et très profonde de la Bible, hein, il traduit « Je suis que je suis ». Voilà, c'est comme une fin de non-recevoir. Alors, il y a une traduction dans le sens de ce que dit Paul Beauchamp que je ne vous ai pas mis sur la feuille, c'est, en gros, c'est « occupe-toi de tes affaires ». Voilà. Mais je ne l'ai pas mis. Hein. Mais c'est un peu ça. « Occupe-toi de tes affaires ». Tu demandes quel est mon nom, mais il faut savoir que dans la mentalité païenne, prononcer le nom d'une divinité, ça voulait dire, une fois qu'on prononçait le nom, la divinité était censée se rendre présente. Elle est là. Je prononce le nom. Donc, une fois que je prononce le nom, par exemple, Isis ou Thoth, je ne sais pas quoi, eh bien, le dieu Isis ou le dieu Thoth est présent. Comme c'est pour ça que les prêtres prononçaient les noms, hein, des divinités. Hein, pareil à Babylone, Marduk. Voilà.
C'est pour ça qu'il ne faut pas prononcer le nom de l'adversaire.
Voilà. Hein, alors, c'est ben, les réalités spirituelles, en effet. Hein, c'est pas n'importe comment qu'on peut les employer. Donc, Dieu dit en gros, c'est pas ton affaire. Je suis que je suis. Et alors, qu'est-ce que tu veux savoir davantage? Oui. Le catéchisme de l'Église catholique a repris ça, hein, c'est cette interprétation, l'Église... J'insiste dessus parce que on voit... Il y a toute une tradition philosophique qui a été reprise au Moyen-Âge avec saint Thomas d'Aquin, hein, dans laquelle on va parler de l'être de Dieu, hein, la substance divine, les essences. Saint Augustin faisait déjà ça. Hein. Alors l'Église catholique a beaucoup repris ça. Mais c'est impressionnant de voir que dans le catéchisme de l'Église catholique, on donne place également à cette interprétation plus biblique, par certains côtés plus poétique et plus mystique, hein, de dire Dieu révèle son nom et en même temps il le cache. Dieu le révèle et en même temps il refuse de le révéler. Et cependant, Dieu n'est pas inconnaissable. Il ne faut pas dire Dieu est inconnaissable. Dieu est connaissable, mais toujours de manière cachée. Alors il donne un indice très important. Il s'identifie au Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Autrement dit, Dieu s'est déjà révélé à travers une histoire d'alliance. Vous connaissez déjà Dieu, puisque vous connaissez Abraham, Isaac et Jacob. Le lecteur de la Bible connaît l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est dans une histoire que Dieu s'est révélé. Le Dieu caché, Dieu est caché, et pourtant il est intervenu dans l'histoire. Il a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est le même Dieu qui a parlé à vos pères. Donc Dieu s'est déjà révélé à travers cette histoire où il s'est montré fidèle. Il continuera de le faire. D'ailleurs, comme ça qu'on est Dieu, on connaît Dieu, c'est par sa fidélité. Hein? Eh bien, il se montrera de nouveau fidèle en intervenant de nouveau. Hein? Et il promet qu'il va descendre pour intervenir auprès de son peuple. Hein, il va descendre. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Hein. Autrement dit, ça, j'aurai l'occasion de le rappeler, mais les Israélites posent plein de questions comme nous, puisqu'ils sont un peu rationalistes ou ils sont critiques, mais une fois que le Seigneur qui a dit « Je vais vous arracher aux Égyptiens et vous verrez la victoire du Seigneur », ils vont traverser la mer, ils vont se retrouver de l'autre côté, ils n'ont pas vu Dieu, ils ont juste vu du feu, la colonne de feu. Mais n'empêche qu'ils voient qu'ils sont libres. Alors quand on dit « Dieu a agi à main forte et à bras étendus », certes, il reste le Dieu caché, et en même temps, il s'est bien révélé. La preuve, c'est que j'étais dans la mort, maintenant je suis vivant. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Tout ce thème du Dieu caché, du Dieu... Il ne faut pas dire « Dieu est inconnaissable ». Il est incompréhensible. Hein? Il y a les pères de l'Église qui ont écrit des textes « L'incompréhensibilité de Dieu ». On ne peut pas en faire le tour, on ne peut pas le définir. Dieu, c'est l'être. Ça y est, je sais ce que c'est l'être. C'est ce qu'on a fait au XVIIIe siècle. L'être suprême. Bon, à la fin, on n'avait plus qu'à supprimer l'être suprême, parce que l'être suprême, c'est un concept philosophique qui a été complètement remis en cause. Voilà. Et malheureusement, chez les chrétiens, on a un peu trop accepté cette idée de Dieu, l'être suprême. On avait oublié cette lecture biblique qui nous montre que Dieu reste toujours au-delà. En revanche, il intervient concrètement dans une histoire. Voilà. Donc, Dieu se montrera fidèle et donc se révélera en intervenant de nouveau. Il va descendre pour intervenir auprès de son peuple. Je serai, mais vous avez compris hein, le sens de « je serai hein, », le verbe être, « je serai avec vous ». Et voilà ce que je ferai. Hein. « Je vous ferai monter de la terre d'Égypte vers la terre de Canaan, une terre qui ruisselle de lait et de miel ». Alors, ça fait beaucoup de choses, j'en suis bien conscient, c'est pour ça qu'il y aura des questions peut-être après, mais... ça montre à quel point la révélation juive et chrétienne est une révélation historique. Une différence radicale avec l'islam, pour lequel il y a le Coran qui tombe comme ça, avec toute une vérité qui est mise dans un livre. Pour les juifs et les chrétiens, Dieu parle à travers une histoire où il montre sa puissance. Et de façon concrète, vous avez vu, voilà, ce que j'ai fait pour vous. Je serai avec vous et voilà ce que je ferai. Alors, je conclus hein, sur cette première révélation du nom. L'approche métaphysique de la tradition de la Septante. Hein, la Septante, c'est la Bible grecque, hein, pour ceux qui... Voilà, c'est la Bible en grec. Et la Vulgate, la Bible en latin. Cette approche métaphysique ne correspond pas aux préoccupations de l'auteur biblique. Hein, Dieu ne révèle pas son nom de façon abstraite, mais par sa présence agissante. C'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, on est davantage sensible au caractère existentiel et historique du récit biblique, hein, les événements, Dieu qui intervient. Maintenant, il ne faut pas rejeter cette approche métaphysique que l'Église a reprise à son compte, hein, l'approche plus philosophique, elle reste valable quand même, c'est une interprétation qui reste juste. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rappelle que Dieu se révèle comme sujet transcendant et vrai. Dire Dieu est l'être, il y a quand même une vérité. C'est que Dieu ne s'identifie pas à l'être. Jean-Luc Marion, qui est un peu, j'allais dire, de la famille, enfin, qui était spirituel d'Anne Carême, il dit Dieu sans l'être. Alors, il a un peu poussé, peut-être un peu trop loin, mais pour montrer que Dieu reste transcendant. Hein. Mais l'idée de dire de cette interprétation, c'est quand même de nous dire que Dieu est un sujet transcendant et vrai, et c'est ça que nous dit la phrase « ayez à chair ayez » peut se traduire « je suis celui qui suis ». Voilà, alors Dieu va aussitôt après donner un autre nom qui ressemble davantage à un nom propre. « Tu parleras ainsi aux Israélites, le Seigneur ». Alors, j'ai mis YHWH, que je ne prononce pas volontairement, parce que la Bible fait de telle sorte qu'on ne le prononce pas. Donc c'est amusant que la Bible prenne les moyens qu'on ne prononce pas un nom, mais nous on fait que comme dans notre tête, on ne fait pas le détour qu'on aurait dû faire, hein, on fait comme on pense, et donc on fait comme les Grecs dans la Septante, hein, ils ont mis Yahvé. Hein, et c'est une erreur. Hein. Voilà. Donc le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera d'âge en âge. Hein. Voilà, le nom, alors YHWH, on parle du tétragramme, hein, quatre lettres, hein, Yud E Vav E en hébreu, Yud E Vav E. Hein. Ce nom, on le retrouve très souvent dans la Bible, hein, c'est le nom qu'on voit peut-être le plus pour à propos de Dieu. Hein, d'où le nom de, vous savez, la tradition yaviste. Hein, je vous avais parlé de l'hypothèse documentaire, la théorie documentaire. Hein. Ici, il s'agit d'un texte de la tradition éloïste. Alors, éloïste à cause de Elohim. Alors, pourquoi il révèle ce nom, ce tétragramme ? Précisément parce que pour l'éloïste, hein, ce n'est pas le nom habituel de Dieu. C'est l'objet d'une révélation spécifique. Voilà. C'est l'objet d'une révélation spécifique. C'est la première fois que Dieu se fait connaître sous ce nom. Alors l'étymologie de ce nom reste disputée. Je pense que j'aurais voulu mettre discuter, mais discuter, d'ailleurs les deux fonctionnent. C'est un nom qui est à la fois mystérieux et imprononçable. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut me prononcer à haute voix YHWH, qu'est-ce que ça a? Alors, il y a une vocalisation. Mais le problème de la vocalisation, c'est que sur le VAV, il y a un O et un E en même temps. Alors, ça a donné, certains ont mis YEHOVA. Mais c'est tordu et c'est pas ce que dit le texte. Alors, probablement, hein, on pense qu'on a la trace de... Il y avait des noms hein, qui existaient, hein, notamment chez les Kénites, les populations qui habitaient le sud d'Israël, qui invoquaient un dieu Yah. Hein. Donc il y a toujours une racine historique très précise. Mais probablement, le verbe se rattache davantage, le nom hein, se rattache davantage au verbe être, hein, Haya, où on retrouve à peu près les mêmes lettres, hein, en forme causative. Être cause d'être, créer. Voilà, c'est peut-être une forme raccourcie de Dieu qui crée. Voilà. Donc, il y a un lien entre les deux noms, hein, je suis qui je suis, et puis le tétragramme. Hein. Mais l'idée, c'est que ce nom reste imprononçable, et ça, c'est comme un pied de nez aux religions païennes de l'Antiquité, dans lesquelles on invoquait le nom de Dieu. On voit ça dans toutes les... Tous les livres sur les cultes antiques, hein, le prêtre entrait dans le temple.
Comme et il a fait Dieu pour s'adresser à Moïse en disant « Je suis YVYH ». Il a bien prononcé.
Alors, De même qu'on sait que le grand prêtre, chaque année, prononçait ce nom au temple. Comment le faisait-il? On ne peut pas le savoir. Voilà. Ce qu'il faut savoir, ça pose une autre question que je n'aborde pas ici, que j'aborde davantage avec le Nouveau Testament, c'est que, de toute façon, tous les récits bibliques, c'est une écriture, ou on peut dire une réécriture. Il y a une dimension d'interprétation. Comment les choses se sont-elles passées de façon incandescente, de façon insaisissable? J'aime bien prendre le... Comme on touche presque à la fin, est-ce que c'est peut-être plus simple de terminer? J'avais plus que pour trois lignes, et puis après, je vais y aller deux questions. Voilà. Saint Ignace de Loyola, qui vivait des expériences mystiques très fortes, les traduisait avec des codes qui étaient les siens. Mais on sait bien que son expérience était beaucoup plus forte. Donc, expérimenter le nom de Dieu, c'est une expérience qui devait brûler le cœur de Moïse. Mais le fait de mettre le tétragramme, c'est un code. Mais il n'y a pas au ciel Dieu qui serait à sa table avec son nom comme ça. C'est obligatoirement, c'est une écriture humaine. Mais l'écriture humaine essaye de rendre compte le fait qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Voilà. Bien qu'il soit imprononçable, et ce n'est pas notre question ici de savoir comment le grand prêtre va le prononcer, ce nom a une finalité cultuelle. Et ça, c'est très très important pour notre propos. Le Seigneur dit « c'est ainsi que l'on m'invoquera d'âge en âge ». Invoquer le nom de Dieu, ça, c'est une expression du culte. On invoque le nom de Dieu. Autrement dit, on verra à la suite du livre de l'Exode que c'est par la liturgie, le culte, que Israël peut vivre dans la proximité de Dieu. Le propre de la liturgie, c'est de nous permettre de vivre, de nous approcher du buisson ardent, et en nous tenant à juste distance. La liturgie, d'une certaine manière, spirituellement, on retire ses sandales, on se tient à juste distance pour goûter cette présence incandescente de Dieu, à la fois qui se révèle et en même temps qui se cache. Voilà. Alors, conclusion, bien ça, dans le désert, que Dieu prépare Moïse à sauver son peuple, tout ce que nous avons vu, c'est la préparation de Moïse, et on peut dire que le désert constitue ce détour. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de Moïse qui fait un détour vers le buisson ardent. En fait, c'est tout le désert qui va constituer un détour dans l'itinéraire de Moïse, puisqu'il va revenir en Égypte, mais un détour nécessaire pour rencontrer ce Dieu qu'Israël a oublié. Quelquefois, il faut prendre distance. C'est pour ça qu'on fait une retraite dans une abbaye. On fait un détour, on se met à part. C'est le moment où on n'a plus nos points de repère et Dieu va pouvoir nous parler. Dieu, lui, n'a pas oublié, Israël a oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Et en faisant entrer Moïse dans son intimité, eh bien, il prend les moyens d'un redémarrage pour que commence cette belle mécanique du salut, de la libération d'Égypte. Alors, il y avait une autre question derrière... Oui.
Non, c'était pour ajouter à la prononciation du nom de Dieu,
oui.
YHWH, qu'il y a une petite théorie sur Internet de Medium, où on dit qu'en fait, c'est le bruit que fait la respiration quand on inspire et quand on expire.
Oui, c'est exactement ce que disent des exégètes. Ils disent on retrouve l'idée du souffle, l'idée de la respiration, voilà le thème du souffle qui est très très présent dans la Bible. Mais on interprète, mais le nom reste quand même insaisissable et mystérieux.
Dans l'islam, il y a aussi le nom caché de Dieu, il y a les
99 noms,
oui. Et le dernier qui sera révélé au jugement dernier.
Peut-être, je ne connais pas assez bien l'islam. Est-ce qu'il y avait d'autres...
Et là, j'avais été étonnée de voir qu'on parle d'abord de l'ange du Seigneur dans le texte de la Torah.
Oui, il y a l'ange du Seigneur.
Alors, après on dit Dieu.
Oui.
Et alors, c'est très étonnant.
Alors, souvenez-vous, on a eu ça par exemple en Genèse 18. Quand Dieu se rend présent, il se rend présent à travers des médiations ou de manière insaisissable. Souvenez-vous, en Genèse 18, il y a trois visiteurs. Puis dans le dialogue... Abraham parla à son hôte. Il n'est plus qu'un. Puis après, l'ange le précéda. J'ai l'impression que les points de repère... Vous voyez, c'est comme ça que la Bible fonctionne. C'est Dieu, mais selon le contexte, selon le moment, il va intervenir d'une manière toujours un peu inattendue. Et l'ange, c'est toujours pour marquer une certaine distance, pour dire qu'on ne peut pas mettre la main sur Dieu. Malach Adonai. En réalité, c'est Dieu qui intervient. Quand on parle de l'ange là, oui, tout à fait. Oui.
En hébreu aussi, on dit Adonai pour Dieu, mais ça dépend de comment l'on parle de Dieu. Parce
alors,
qu'on peut dire Elohim, on peut dire Adonai.
Alors, Elohim, quand c'est marqué en hébreu Elohim, on dit Elohim. Ouais. Elohim, en fait, c'est l'équivalent de pour nous, le mot Dieu. Vous savez que le mot Dieu, c'est un nom qui est païen, enfin, c'est un nom humain. C'est le Dieu, quand on dit Dieu, même dans notre prière, Dieu, je t'adore, c'est la même chose que Zeus, ou Théos, en grec. C'est la même racine. Hein. Zeus, Théos, Deus, ben oui, on voit bien la continuité. Hein. Théos et Zeus, Deus, Dieu. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de ce nom-là. Hein. C'est un nom qu'on prononce. Le simple fait de le prononcer, ça montre que c'est un nom humain. Et dans la tradition juive, quand l'homme peut voir ou dire quelque chose, il y a ce qu'on appelle... cette réalité est profanée. Profanée, ça veut dire devant le temple, c'est-à-dire en dehors du temple. Ça veut dire que c'est une réalité humaine. Voilà. Voilà, voyez. Donc tous les mots que nous utilisons, ce ne sont que des mots humains. Donc le Elohim, c'est un mot de comme Dieu. Voilà. C'est un nom qui dit en gros la divinité. Voilà. Alors en effet, quand on a le tétragramme imprononçable pour dire que là on a une réalité incandescente comme un feu, on va le remplacer par Adonai, qui veut dire mon maître. Adon, ça veut dire le maître. Alors, mon maître. Adon. Adonai. Pardon ?
On le dit quand on le lit dans la Bible. Enfin,
alors voilà, la tradition juive dit quand il y a le nom, le tétragramme, ben, ça on le verra au chapitre 34. Je ferai le commentaire là, les midot, hein, les 13 mesures de Dieu. En effet, on dit la tradition juive tardive. Dit le tétragramme, c'est la miséricorde, Elohim, c'est la justice.
C'est la loi.
À cause de, voilà, c'est une interprétation.
Alors, je sais pas, voilà.
Et alors, les Juifs, pour éviter de prononcer le nom de Dieu, ils emploient aussi le terme de. Ils disent le nom. Le nom. Vous voyez, je ne le prononce pas, je dis le nom. Hachem. Hein, c'est une histoire qui m'avait amusé quand j'étais à l'Immaculée Conception. C'était à la fin de la messe. Puis après, il faut qu'on y aille. C'est à la fin de la messe. Je vois deux jeunes arriver sur les mobilettes. Vous savez, quelquefois, vous avez des jeunes gros comme des allumettes hein, qui tiennent sur un énorme casque comme ça. Brrr, hein, et ils s'approchent, ils vont avoir 15 ans ou peut-être un peu plus. Ils me regardent. Bonjour, monsieur. T'es le prêtre. T'es catholique. Voilà, donc, visiblement, ils connaissaient un peu. J'étais en chasuble. C'est à la fin de la messe. Ils me disent, t'es le prêtre. Ça, c'est assez beau, ça. Baruch Hashem. Hein. Baruch Hashem, c'est-à-dire béni soit le nom. Donc, je dis, c'est deux jeunes juifs. Hein, deux jeunes juifs assez beaux. Baruch Hashem. Ouais. C'est un peu une expression, béni soit le nom. Vous avez déjà entendu ça ou pas, non? Voilà, le nom. Mais ça, c'est très beau, parce que nous, les chrétiens, nous prenons nos aises en pensant qu'on peut prononcer le nom de Dieu. Ben, évidemment, Dieu s'est incarné, c'est la grande proximité, et on oublie ce sens de la transcendance et de la sainteté de Dieu. Ça fait un peu sourire les juifs qui disent, regardez les chrétiens qui nous donnent des leçons, ils n'ont plus ce respect. Et sachez qu'il y a un texte du Vatican qui est ressorti il y a une dizaine d'années, qui dit « Nous rappelons la règle selon laquelle, quand on a le nom, le tétragramme, on ne dit pas Yahvé, on dit le Seigneur. » Quand vous faites la lecture biblique, quand vous avez le tétragramme, YHWH, vous ne dites pas Yahvé, vous dites le Seigneur. Voilà. Bien, eh bien écoutez, navré de vous avoir assommé avec beaucoup de choses aujourd'hui. La prochaine fois... Chauffeur de ma part, nous sommes déjà dans les plaies d'Égypte. Et donc, je pose dès à présent la question, combien y a-t-il de plaies d'Égypte?
7.
On verra la prochaine fois. C'est le défi. Ceux qui étaient en Terre Sainte, je crois me souvenir que je l'avais mis dans le quiz.